Le testament d'un excentrique, chapitre 11. Les transes de Jovita Follet. Lissiwag était, par son numéro d'ordre, la cinquième à partir. 9 jours allaient donc s'écouler entre celui où Max Réal avait quitté Chicago et celui où elle devrait quitter à son tour la métropole illinoise. En quelles impatiences elle passa cette interminable semaine, où, pour dire le vrai, Jovita Follet la passa en son lieu et place. Elle ne parvenait pas à la calmer. Son amie ne mangeait plus, elle ne dormait plus, elle ne vivait plus. Les préparatifs avaient été faits dès le lendemain du premier coup de dé, le premier du mois, à 8 heures du matin. Et 2 jours après, elle avait obligé Lissiwag à l'accompagner jusqu'à la salle de l'auditorium, où le second coup allait s'effectuer en présence d'une foule toujours aussi nombreuse, toujours aussi émotionnée. Puis, les troisième et quatrième coups furent proclamés à la date des 5 et 7 mai. 48 heures encore, et le sort allait se prononcer sur les deux amies, car on ne les séparait pas l'une de l'autre. Les deux jeunes filles ne faisaient qu'une seule et même personne. Il faut s'entendre, cependant. C'était Jovita Follet qui absorbait Lissiwag, celle-ci étant réduite à ce rôle de mentor, prudent et raisonnable, qu'on ne veut jamais écouter. Inutile de dire que le congé accordé par M. Marshall Field à sa sous-caissière et à sa première vendeuse avait commencé le 16 avril, le lendemain de la lecture du testament. Ces deux demoiselles n'étaient plus astreintes à se rendre au magasin de Madison Street. Cela ne laissait pas, cependant, de causer quelque inquiétude à la plus sage, car, enfin, en cas que l'absence se prolongeât des semaines, des mois, leur patron pourrait-il si longtemps se priver d'elle? « Nous avons eu tort, » répétait Lissiwag. « C'est entendu, » répondait Jovita Follet, « et nous continuerons d'avoir tort tant qu'il le faudra. » Cela dit, la nerveuse et impressionnable personne ne cessait d'aller, de venir dans le petit appartement de Sheridan Street. Elle ouvrait l'unique valise qui refermait le linge et les vêtements de voyage. Elle s'assurait que rien n'était oublié pour un déplacement peut-être de longue durée. Puis elle se mettait à compter, à recompter l'argent disponible, toutes leurs économies converties en papier et en or, que les hôtels, les railroads, les voitures, l'imprévu, dévoreraient à la grande désolation de Lissiwag. Et elle causait de tout cela avec les locataires, si nombreux dans ces immenses ruches de Chicago à 17 étages. Et elle descendait par l'ascenseur et remontait dès qu'elle avait appris quelques nouvelles des journaux et des crieurs de la rue. « Ah, ma chérie, » dit-elle un jour, « il est parti, ce monsieur Max Réal. Mais où est-il? Il n'a pas même fait connaître son itinéraire pour le Kansas. » Et effectivement, les plus fins limiers de la chronique locale n'avaient pu se jeter sur les traces du jeune peintre, dont on ne comptait pas avoir de nouvelles avant le 15, c'est-à-dire une semaine après que Jovita Follet et Lissiwag seraient lancés sur les grandes routes de l'Union. « Eh bien, à part les francs, » dit Lissiwag, « c'est de tous nos partenaires ce jeune homme auquel je m'intéresse le plus. »«
Parce qu'il t'a souhaité bon voyage, n'est-ce pas ?» répondit Jovita Follet.
« Et aussi parce qu'il me paraît digne de toutes les faveurs de la fortune. »«
Après toi, Lissi, j'imagine. »«
Non, avant. »«
Je comprends. Si tu ne faisais pas partie des 7, » répondit Jovita, « tes vœux seraient pour lui. »
« Et ils le sont tout de même. »«
C'est entendu, mais comme tu en fais partie, et moi aussi en qualité d'ami intime, avant d'implorer le ciel pour ce Max Réal, je t'engage à l'implorer pour moi. D'ailleurs, je te le répète, on ignore où il est, cet artiste. Pas loin de Fort Wheeler, je suppose. À moins que quelque accident... »«
Il faut espérer que non, Jovita. »
« Il faut espérer que non, c'est entendu. C'est entendu, ma chérie. »
et c'est ainsi que Jovita Follet, le plus souvent, ripostait par cette locution, ironique dans sa bouche, aux observations de la craintive Lizzie Wagg. Puis, l'excitant encore, elle lui dit « Tu ne me parles jamais de cet abominable Tom Crabbe, car il est en route avec son cornac. En route pour le Texas? Est-ce que tu ne fais pas aussi des vœux pour le crustacé ?»«
Je fais le vœu, Jovita, que le sort ne nous envoie pas dans des pays aussi éloignés. »
« Bah, Lizzie, voyons, Jovita, nous ne sommes que des femmes, et un état voisin d'une autre conviendrait mieux. »«
D'accord, Lizzie, et cependant, si le sort ne pousse pas la galanterie jusqu'à épargner notre faiblesse, s'il nous expédie à l'océan Atlantique, à l'océan Pacifique ou au golfe du Mexique, force sera bien de se soumettre. »
« On se soumettra, puisque tu le veux, Jovita. »«
Ce n'est pas parce que je le veux, mais parce qu'il le faut, Lizzie. Tu ne penses qu'au départ, jamais à l'arrivée. La grande arrivée, la 63e case. Et moi j'y pense nuit et jour. Puis au retour à Chicago, où les millions nous attendent dans la caisse de cet excellent notaire. »«
Oui, ces fameux millions de l'héritage. » dit Lizzie Wagg en souriant.
Voyons, Lizzie, est-ce que les autres partenaires n'ont pas accepté sans t'en récriminer? Est-ce que le couple Tidbury n'est pas sur le chemin du Maine?
Pauvres gens, je les plains.
Ah, oh, tu m'exaspères à la fin, s'écria Jovita Follet. Et toi, si tu ne t'apaises pas, si tu continues à t'énerver comme tu le fais depuis une semaine, tu te rendras malade. Et je resterai pour te soigner, je t'en préviens.
Moi, malade, tu es folle. Ce sont les nerfs qui me soutiennent, qui me donnent l'endurance, et je serai nerveuse tout le temps du voyage.
Soit, Jovita, mais alors, si ce n'est pas toi qui prends le lit, ce sera moi.
Toi ? Toi ? Eh bien, avise-toi d'être malade.
S'écria la très excellente et trop expansive demoiselle qui se jeta au cou de Lizzie Wagg.
« Alors, sois calme, » répliqua Lizzie Wagg en répondant à ses baisers. « Et tout ira bien. »
Jovita Follet, non sans grands efforts, parvint à se maîtriser, épouvantée à la pensée que son amie pourrait être alitée le jour du départ. Le 7, dans la matinée, en revenant de l'auditorium, Jovita Follet rapporta la nouvelle que le 4e partant, Awist et Kimball, ayant obtenu le point de 6, allait se rendre d'abord dans l'État de New York, au pont du Niagara, et de là à Santa Fe, New Mexico. Lizzie Wagg ne fit qu'une réflexion à ce sujet, c'est que le reporter de la Tribune aurait une prime à payer.
« Voilà ce qui n'embarrassera guère son journal, » lui répliqua son ami.
« Non, Jovita, mais cela nous embarrasserait fort si nous étions obligés de débourser $1,000 au début, ou même dans le cours du voyage. » Et l'autre de répondre, comme d'habitude, par un mouvement de tête qui signifiait clairement « Cela ne se produira pas, non, cela ne se produira pas. » Au fond, c'était ce dont elle s'inquiétait le plus, bien qu'elle n'en voulût rien laisser paraître. Et chaque nuit, pendant un sommeil agité qui troublait celui de Lizzie Wagg, elle rêvait à haute voix de ponts, d'hôtelleries, de labyrinthes, de puits, de prisons, de ces funestes cases où les joueurs devaient payer des primes simples, doubles, triples, pour être admis à continuer la partie. Enfin arriva le 8 mai. Et le lendemain, les deux jeunes voyageuses se mettraient en route. Et rien qu'avec les charbons ardents que Jovita Follet piétinait depuis une semaine, on aurait chauffé une locomotive de grande vitesse qui eût pu la conduire à l'extrémité de l'Amérique. Il va sans dire que Jovita Follet avait acheté un guide général des voyages à travers les États-Unis, le meilleur et le plus complet des « guidebooks ». Qu'elle le feuilletait, le lisait, le relisait sans cesse, bien qu'elle ne fût pas en mesure d'étudier un itinéraire plutôt qu'un autre.
D'ailleurs, pour être tenu au courant, il suffisait de consulter les journaux de la métropole ou ceux de n'importe quelle autre ville. Des correspondances s'étaient immédiatement établies entre chaque État sorti au tirage et plus spécialement avec chacune des localités indiquées dans la note de William J. Hyperbone. La poste, le téléphone, le télégraphe fonctionnaient à toute heure. Feuilles du matin, feuilles du soir contenaient des colonnes d'informations plus ou moins véridiques, plus ou moins fantaisistes même, on doit l'avouer. Il est vrai, le lecteur au numéro, comme l'abonné, sont toujours d'accord sur ce point. Plutôt des nouvelles fausses que pas du tout de nouvelles. Du reste, ces informations dépendaient, on le comprend, des partenaires et de leur façon de procéder. Ainsi, en ce qui concernait Max Réal, si les renseignements ne pouvaient être sérieux, c'est qu'il n'avait mis personne, à l'exception de sa mère, dans la confidence de ses projets. N'ayant pas été signalé à Omaha avec Tommy, puis à Kansas City, à son débarquement du Dean Richmond, les reporters avaient en vain recherché ses traces et on ignorait ce qu'il était devenu. Une non moins profonde obscurité enveloppait encore Herman Tilbury. Qu'il fût parti le 5 avec Madame Tilbury, nul doute à cet égard. Et il n'y avait plus à la maison de Robe Street que la servante, ce molosse féminin dont il a été question. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il voyageait sous un nom d'emprunt. Et inutiles furent les efforts des chroniqueurs pour les saisir au passage. Vraisemblablement, on aurait de nouvelles certaines de ce couple que le jour où il viendrait au post-office de Calais retirer sa dépêche. Les dires étaient plus complets à l'égard de Tom Crabbe. Parti le 3 de Chicago, de façon très ostensible, Milner et son compagnon avaient été vus et interviewés dans les principales cités de leur itinéraire. Et finalement, à la Nouvelle-Orléans, où il s'était embarqué pour Galveston du Texas. La Free Press eut soin de faire remarquer à ce propos que le steamer Sherman était de nationalité américaine, c'est-à-dire un morceau même de la mère patrie. Et en effet, comme il était interdit aux partenaires de quitter le territoire national, il convenait de ne point prendre passage sur un bâtiment étranger, lors même que ce bâtiment fût resté dans les eaux de l'Union. Quant à Awist et Kimball, les nouvelles sur son compte ne manquaient pas. Elles tombaient comme pluie en avril, car il ne regardait ni à un télégramme, ni à un article, ni à une lettre dont bénéficiait la Tribune. On avait ainsi connu son passage à Jackson, puis à Détroit, et les lecteurs attendaient impatiemment le détail des réceptions qui s'organisaient en son honneur à Buffalo et à Niagara Falls. On était donc au 7 mai. Le surlendemain, maître Thornbrock, assisté de George B. Higginbotham, proclamerait dans la salle de l'auditorium le résultat du cinquième coup de dé. Encore 36 heures, Elise Wag serait fixée sur son sort. On s'imagine aisément en quelles impatiences Jovita Follet eût passé ces deux journées, si elle n'avait été en proie à des inquiétudes de la plus haute gravité. En effet, dans la nuit du 7 au 8, Lissy Wag fut subitement prise d'un très violent mal de gorge, et c'est au plus fort d'un accès de fièvre qu'elle dut réveiller son amie, couchée dans la chambre voisine. Jovita Follet se leva aussitôt, lui donna les premiers soins, quelques boissons rafraîchissantes, la recouvrit chaudement, répétant d'une voix peu rassurée « Cela ne sera rien, ma chérie, cela ne sera rien. » « Je l'espère, » répondait Lissy Wag, « car ce serait tomber malade au mauvais moment. » C'était l'avis de Jovita Follet, qui n'eut même pas la pensée de se recoucher, éveilla près de la jeune fille, dont le sommeil fut très péniblement agité. Le lendemain, dès l'aube, toute la maison savait que la cinquième partenaire était assez souffrante pour qu'il eût été nécessaire d'envoyer chercher un médecin. Et ce médecin, on l'attendait encore à 9 heures. La maison étant mise au courant de la situation, la rue ne tarda pas à l'être, puis le quartier, puis la section, puis la ville, car l'information se répandit avec cette vitesse électrique dont sont particulièrement douées les funestes nouvelles. Pourquoi s'en étonner d'ailleurs? Miss Wagg n'était-elle pas la femme du jour, la personnalité la plus en vue depuis le départ d'Awish T. Kimball? N'était-ce pas sur elle que se portait l'attention du public, l'unique héroïne parmi les 6 héros du match Hyperbone? Or, voilà Lizzie Wagg malade, sérieusement peut-être, à la veille du jour où le destin allait se prononcer à son égard. Enfin, le médecin demandé, le docteur M. P. Pug, fut annoncé un peu après 9 heures. Il interrogea d'abord Jovita Foley sur le tempérament de la jeune fille. « Excellent !» lui fut-il répondu. Le docteur vint alors s'asseoir près du lit de Lizzie Wagg. Il la regarda attentivement, il lui fit tirer la langue, il lui tâta le pouls, il l'écouta, il l'ausculta. Rien du côté du cœur, rien du côté du foie, rien du côté de l'estomac. Enfin, après un examen consciencieux qui à lui seul eût valu 4 $ la visite. « Ce ne sera pas sérieux, » dit-il, « à moins qu'il ne survienne quelques complications graves. » « Ces complications sont-elles à craindre ?» demanda Jovita Foley, troublée de cette déclaration. « Oui et non, » répondit le docteur M. P. Pug. « Non, si la maladie est enrayée dès le début. Oui, si malgré nos soins elle ne l'est pas et prend un développement que les remèdes seraient impuissants à réduire. » « Cependant, » reprit Jovita Foley, que ses réponses évasives rendaient de plus en plus inquiètes. « Pouvez-vous vous prononcer sur la maladie ?»« Assurément, et d'une façon péremptoire. »« Parlez donc, docteur. » »« Eh bien, j'ai diagnostiqué une bronchite simple. Les bases des 2 poumons sont atteintes. Il y a un peu de râle, mais la pièvre est indemne. Donc, jusqu'ici, pas de pleurésie à redouter. » Mais la bronchite peut dégénérer en pneumonie, et la pneumonie en congestion pulmonaire. C'est ce que j'appelle les complications graves. » Et le praticien prescrivit les médicaments d'usage. Gouttes d'alcoolature d'aconite, sirop calmant, tisane chaude, repos. Repos surtout. Puis, sur la promesse de revenir dans la soirée, il quitta la maison, ayant hâte de regagner son cabinet que les reporters assiégeaient déjà sans doute. Les complications possibles se produiraient-elles? Et si elles se produisaient, qu'arriverait-il? En présence de cette éventualité, Jovita Foley fut au moment de perdre la tête. Pendant les heures qui suivirent, Lizzie Wagg lui parut plus souffrante, plus accablée. Des frissons annoncèrent un second accès de fièvre. Le pouls battit avec une fréquence irrégulière et la prostration s'accrut. Jovita Foley, accablée au moral, à tout le moins, autant que la malade l'était au physique, ne quitta pas son chevet, ne s'interrompant pas de la regarder, de lui essuyer son front brûlant, de lui verser les cuillerées de potions, que pour s'abandonner aux réflexions les plus désolantes, à de justes récriminations contre une malchance si déclarée. « Non, se disait-elle, non, ce n'est pas un Tom Crabbe, ce n'est pas un Tidbury qui eussent été pris de bronchite la veille de leur départ, ni un Kimball, ni un Max Real, et ce n'est pas non plus ce Commodore Wiccan que pareil malheur aurait atteint. Il faut que ce soit ma pauvre Lizzie, d'une si belle santé. Et c'est demain, oui, demain le 5e tirage. Et si nous sommes envoyés loin, loin? Et si un retard de 5 ou 6 jours seulement doit nous empêcher d'être à notre poste? Et même si le 23 du mois arrive avant que nous ayons pu quitter Chicago? Et s'il est trop tard pour le faire? Et si nous sommes exclus de la partie sans l'avoir commencée? Si, si, Cette malencontreuse conjonction s'agitait dans le cerveau de Jovita Follet et lui faisait battre les tempes. Vers 3 heures, l'accès de fièvre tomba. Lissy Wagg sortit de cette profonde prostration et la toux parut devoir prendre une certaine intensité. Lorsque ses yeux s'entr'ouvrirent, Jovita Follet était penchée sur elle.
« Eh bien ?» lui demanda celle-ci. « Comment te sens-tu ? Mieux, n'est-ce pas ? Que veux-tu que je te donne ?»«
Un peu à boire, » répondit Miss Wagg d'une voix très altérée par le mal de gorge.
« Voici, ma chérie, une bonne tisane, de l'eau sulfureuse dans du lait bien chaud. Et puis, le médecin l'a ordonné, il y aura quelques cachets.
Tout ce que tu voudras, ma bonne Jovita.
Alors, cela ira tout seul.
Oui, tout seul.
Et tu parais moins souffrante.
Tu sais, chère amie, répondit Lissy Wagg, lorsque la fièvre est tombée, on est très abattu, mais on éprouve comme un certain mieux.
C'est la convalescence, s'écria Jovita Follet. Demain, il n'y paraîtra plus.
La convalescence, déjà ? Murmura la malade en essayant de sourire.
Oui, déjà, et quand le médecin reviendra, il dira si tu peux te lever.
Entre nous, avoue, ma bonne Jovita, que je n'ai vraiment pas de chance.
Pas de chance, toi ?
Oui, moi. Et le sort s'est bien trompé en ne te choisissant pas à ma place. Demain, tu aurais été à l'auditorium et tu serais parti le jour même.
Je serais parti, te laissant dans cet état ? Jamais !
J'aurais bien su t'y forcer.
D'ailleurs, il ne s'agit pas de cela, répondit Jovita Follet. Ce n'est pas moi qui suis la 5e partenaire. Ce n'est pas moi la future héritière de feu Hyperbone. C'est toi.
Mais réfléchis donc, ma chérie. Rien ne sera compromis, même si notre départ est retardé de 48 heures. Il restera encore 13 jours pour faire le voyage. Et en 13 jours, on peut aller d'un bout des États-Unis à l'autre.
Lissy Wagg ne voulut pas répondre que sa maladie pourrait se prolonger une semaine. Et qui sait, au-delà des 15 jours réglementaires. Elle se contenta de dire
« Je te promets, Jovita, de guérir le plus vite possible. »
« Et je ne t'en demande pas davantage. Mais pour le moment, assez causé. Ne te fatigue pas. Essaie de dormir un peu. Je m'assois là, près de toi. »
« Tu finiras par tomber malade à ton tour. »«
Moi ? Sois tranquille. Et d'ailleurs, nous avons de bons voisins qui me remplaceraient si c'était nécessaire. Dors en toute confiance, Malissy. »
Et après avoir pressé la main de son amie, la jeune fille se retourna et ne tarda pas à s'assoupir. Cependant, ce qui inquiéta et irrita Jovita Follet, c'est que dans l'après-midi, la rue présenta une animation peu ordinaire à ce quartier tranquille. Il s'y faisait un tumulte de nature à troubler le repos de Lissy Wagg, même à ce 9e étage de la maison. Des curieux allaient et venaient sur les trottoirs, des gens affairés s'arrêtaient, s'interrogeaient devant le numéro 19. Des voitures arrivaient avec fracas et repartaient à toute bride vers les grands quartiers de la ville.
« Comment va-t-elle ? » disaient les uns.
« Moins bien, » répondaient les autres.
« On parle d'une fièvre muqueuse. »«
Non, d'une fièvre typhoïde. »
« Ah, la pauvre demoiselle, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas de veine. »
« C'en est une pourtant de figurer parmi les 7 du match Hyperbone. »
« Bel avantage, si l'on ne peut pas en profiter. »
« Et quand même Lissy Wagg serait en mesure de prendre le train, est-ce qu'elle est capable de supporter les fatigues de tant de voyages ?»«
Parfaitement, si la partie s'achève en quelques coups, ce qui est possible. »
« Et s'il dure des mois ?»
Sait-on jamais sur quoi compter avec le hasard ?
Et 1000 propos de ce genre. Il va sans dire que nombre de curieux, peut-être de parieurs et assurément des chroniqueurs, se présentèrent au domicile de Jovita Follet. Malgré leurs instances, celle-ci refusait de les recevoir. De là, des nouvelles contradictoires, empreintes d'exagération, ou fausses de tout point, relativement à la maladie, et qui couraient la ville. Mais Jovita Follet tenait bon, se contentant de s'approcher de la fenêtre, de maudire l'intense brouhaha de la rue. Elle ne fit d'exception que pour une employée de la maison Marshall Field, à laquelle elle donna d'ailleurs des nouvelles très rassurantes. Un rhume, un simple rhume. Entre 4 et 5 heures du soir, comme le tumulte redoublait, elle mit la tête hors de sa chambre et reconnut au milieu d'un groupe en grande agitation. Qui ? Hodge Hurrican. Il était accompagné d'un homme d'une 40aine d'années, à tournure de marin, vigoureux, trapu, remuant, gesticulant. C'était à le croire encore plus violent, plus irascible que le terrible Commodore. Certes, ce ne pouvait être par sympathie pour sa jeune partenaire que Hodge Hurrican se trouvait ce jour-là chez Widon Tweet, qu'il se promenait sous ses fenêtres, qu'il les dévorait du regard. Et ce que Jovita Follet observa très distinctement, c'est que son compagnon, plus démonstratif, montrait le poing en homme qui n'est pas maître de lui. Puis, autour de lui, comme on assurait que la maladie de Lissy Wagg se réduisait à une simple indisposition, « Quel est l'imbécile qui dit cela » proféra-t-il. Le personnage interpellé ne chercha point à se faire connaître, craignant un mauvais coup. « Mal ! Elle va mal !» déclara le Commodore Hurrican. « De plus en plus mal !» surenchérit son compagnon. « Et si l'on me soutient le contraire ?»« Voyons, Turk, contiens-toi. »«
Que je me contienne ?»
répliqua Turk en roulant des yeux de tigre en fureur.
« C'est facile à vous, mon Commodore, qui êtes le plus patient des hommes. Mais moi, d'entendre parler de la sorte, cela me met hors de moi. Et quand je ne me possède plus...
C'est bon, en voilà assez !» ordonna Hodge Hurrican en secouant à le lui arracher le bras de son compagnon. Après ces quelques phrases, il fallait donc croire, ce que personne n'eût cru possible, qu'il existait ici-bas un homme auprès duquel le Commodore Hodge Hurrican devait passer pour un ange de douceur. En tout cas, si tous deux étaient venus là, c'est qu'ils espéraient recueillir de mauvaises nouvelles et s'assurer que le match Hyperbone ne se jouerait plus qu'entre 6 partenaires. C'était bien ce que pensait Jovita Follet, et elle se retenait pour ne pas descendre dans la rue. Quelle envie elle éprouvait de traiter ces 2 individus comme ils le méritaient, au risque de se faire dévorer par le fauve à face humaine. Bref, de ce concours de circonstances, il résulta que les informations des premières feuilles, publiées vers 6 heures du soir, furent pleines des plus étranges contradictions. D'après les unes, l'indisposition de Lissy Wagg avait cédé aux premiers soins du docteur et son départ ne serait pas même retardé d'un seul jour. D'après les autres, la maladie ne présentait aucun caractère de gravité, cependant un certain temps de repos serait nécessaire et Miss Wagg ne pourrait pas se mettre en route avant la fin de la semaine. Or, ce furent précisément le Chicago Globe et le Chicago Evening Post, favorables à la jeune fille, qui se montrèrent les plus alarmistes. Consultation des princes de la science, une opération à pratiquer, Miss Wagg s'était cassée un bras, disait le premier, une jambe, disait le second. Enfin, une lettre anonyme avait été écrite à Maître Thornbrock, exécuteur testamentaire du défunt, pour le prévenir que la 5e partenaire renonçait à sa part éventuelle de l'héritage. Quant au Chicago Mail, dont les rédacteurs semblaient épouser les sympathies et les antipathies du Commodore Hurrican, il n'hésita pas à déclarer que Lissy Wagg avait rendu le dernier soupir, entre 4h45 et 4h47 de l'après-midi. Lorsque Jovita Follet eut connaissance de ces nouvelles, elle faillit se trouver mal. Heureusement, le docteur Pug, à sa visite du soir, la rassura dans une certaine mesure. Non, il ne s'agissait que d'une simple bronchite, il le répétait. aucun symptôme de la terrible pneumonie, ni de la terrible congestion pulmonaire. Jusqu'à présent, du moins. Il suffirait de quelques jours de calme et de repos.
Combien ?
Peut-être 7 à 8.
7 à 8 ?
Et à la condition que le sujet ne s'expose pas à des courants d'air.
7 ou 8 jours ?
Répétait la malheureuse Jovita Follet en se tordant les mains.
Et encore, s'il ne survient pas de complications graves.
La nuit ne fut pas très bonne. La fièvre reparut, un accès qui dura jusqu'au matin et provoqua une abondante transpiration. Toutefois, le mal de gorge avait diminué et l'expectoration commençait à se rétablir sans grands efforts. Jovita Follet ne se coucha pas. Ses interminables heures, elle les passa au chevet de sa pauvre amie. Quel garde-malade aurait pu la valoir pour les soins, les attentions, le zèle. D'ailleurs, elle n'eût cédé sa place à personne. Le lendemain, après quelques moments de malaise et d'agitation matinale, Lizzie Wagg se rendormit. On était au 9 mai, et le 5e coup du match Hyperbonne allait être joué dans la salle de l'auditorium. Jovita Follet aurait donné 10 ans de sa vie pour être là. Mais quitter la malade? Non, il n'y fallait pas songer. Seulement, il arriva ceci. C'est que Lizzie Wagg ne tarda pas à se réveiller. Elle appela sa compagne et lui dit « Ma bonne Jovita, prie notre voisine de venir te remplacer près de moi. »
« Tu veux que... »«
Je veux que tu ailles à l'auditorium. C'est pour 8 heures, n'est-ce pas ?»«
Oui, 8 heures. »«
Eh bien, tu seras revenu 20 minutes après. J'aime mieux te savoir là. Et puisque tu crois à ma chance... »«
Si j'y crois !»
se fut écrié Jovita Follet 3 jours avant. Mais ce jour-là, elle ne répondit pas. Elle mit un baiser sur le front de la malade, et prévint la voisine, une digne dame, qui s'installa au chevet du lit. Puis elle descendit, se jeta dans une voiture et se fit conduire à l'auditorium. Il était 7h40 lorsque Jovita Follet arriva à la porte de la salle déjà encombrée. Reconnue dès son entrée, on l'assaillit de questions.
« Comment allait Lizzie Wagg ?»«
Parfaitement bien, » déclara-t-elle en demandant qu'on lui permît de s'avancer jusqu'à la scène, ce qui fut fait. La mort de la jeune fille ayant été formellement affirmée par des journaux du matin, quelques personnes s'étonnèrent que sa plus intime amie fût venue, et pas même en habit de deuil. À 8h10, le président et les membres de l'excentrique club, escortant Maître Thornbrock, toujours luneté d'aluminium, parurent sur la scène et s'assirent devant la table. La carte était étalée sous les yeux du notaire, les 2 dés reposaient près du cornet de cuir. Encore 5 minutes et 8 heures sonneraient à l'horloge de la salle. Soudain, une voix tonnante rompit le silence, qui s'était établi non sans quelque peine. Cette voix, on la reconnut à ses éclats de faux bourdon. C'était la voix du Commodore. Hodge Hurrican demanda à prendre la parole pour une simple observation, ce qui lui fut accordé.
« Il me semble, monsieur le président, » dit-il en grossissant son timbre à mesure que la phrase se développait, « il me semble que pour se conformer aux volontés précises du défunt, il conviendrait de ne pas tirer ce 5e coup, puisque la 5e partenaire n'est pas en état. »
« Oui, oui !» hurlèrent plusieurs assistants du groupe où se tenait Hodge Hurrican, et d'une voix plus enragée que les autres, cet homme violent qui l'accompagnait la veille sous les fenêtres de Jovita Follet.
« Tais-toi, Turk, tais-toi !»
lui signifia le Commodore Hurrican comme s'il eût parlé à un chien.
« Que je me taise !»
À l'instant. Turk se résigna au silence, sous le fulgurant regard de Hodge Hurrican, qui reprit. « Et si je fais cette proposition,
c'est que j'ai de sérieux motifs de croire que la cinquième partenaire ne pourra partir ni aujourd'hui, ni demain. »
« Pas même dans 8 jours !»
cria un des spectateurs du fond de la salle.
« Ni dans 8 jours, ni dans 15, ni dans 30 !»
affirma le commodore Hurricane.
« Puisqu'elle est morte ce matin, à 5h47 !»
Un long murmure suivit cette déclaration, mais il fut aussitôt dominé par une voix féminine, répétant par 3 fois
« C'est faux ! Faux ! Faux ! Puisque moi, Jovita Follet, j'ai quitté Lissiwag il y a 25 minutes, vivante et bien vivante !»
Alors les clameurs de reprendre et nouvelle protestation du groupe Hurricane. Après la déclaration si formelle du commodore, Lissiwag manquait évidemment à toutes les convenances. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû être morte, puisqu'il avait affirmé sa mort? Et cependant, quoi qu'il en eût, il aurait été difficile de tenir compte de l'observation de Hodge Hurricane. Néanmoins, l'irréductible personnage insista, en modifiant toutefois son argumentation comme suit.
Soit, la cinquième partenaire n'est pas morte, mais elle n'en vaut guère mieux.
Aussi, en présence de cette situation, je demande que mon tour de dés soit avancé de 48 heures et que le coup qui va être proclamé dans quelques instants soit attribué au 6e partenaire, lequel, par ce fait, sera désormais classé au 5e rang. Nouveau tonnerre de cris et de piétinement à la suite de cette prétention de Hodge Hurricane, soutenue par des partisans bien dignes de naviguer sous son pavillon. Enfin, Maître Thornbrock parvint à calmer cette houleuse assistance et, lorsque le silence fut rétabli, « La proposition de Monsieur Hodge Hurricane, dit-il, repose sur une fausse interprétation des volontés du testateur et elle est en contradiction avec les règles du noble jeu des États-Unis d'Amérique. Quel que soit l'état de santé de la cinquième partenaire, et lors même que cet état se serait aggravé jusqu'à la rayée du nombre des vivants, mon devoir d'exécuteur testamentaire de feu William J. Hyperbone n'en serait pas moins de procéder au tirage de ce 9 mai et au profit de Miss Lissiwag. Dans 15 jours, si elle n'est pas rendue à son poste, morte ou non, elle sera déchue de ses droits, et la partie continuera de se jouer entre 6 partenaires. Véhémente protestation de Hodge Hurricane. Il soutint d'une voix furieuse que, s'il y avait une fausse interprétation du testament, c'était celle de Maître Thornbrock, bien que le notaire eût pour lui l'approbation de l'excentrique club. Et en lançant ces phrases comminatoires, le commodore, si rouge de colère qu'il fût, paraissait pâle auprès de son compagnon, dont la face était poussée jusqu'à l'écarlate. Aussi eut-il le sentiment qu'il fallait retenir Turk pour prévenir un malheur. Après l'avoir arrêté, au moment où celui-ci essayait de se dégager,
« Où vas-tu » dit-il.
« Là !» répondit Turk en montrant du poing la scène.
« Pour ? Pour prendre ce Thornbrock par la peau du cou et le jeter dehors comme un marsouin.
« Ici, Turk, ici !» commanda Hodge Hurricane. Et l'on put entendre dans la poitrine de Turk un rugissement sourd de fauve mal dompté qui ne demande qu'à dévorer son dompteur. 8 heures sonnèrent. Aussitôt, un profond silence succéda aux rumeurs de la salle. Et alors, Maître Thornbrock, peut-être un peu plus surexcité que d'habitude, prit le cornet de la main droite, y introduisit les dés de la main gauche, l'agita en le levant et l'abaissant tour à tour. On entendit les petits cubes d'ivoire s'entrechoquer contre les parois de cuir, et lorsqu'ils s'échappèrent, ils roulèrent sur la carte jusqu'à l'extrémité de la table. Maître Thornbrock invita George B. Higginbotham et ses collègues à vérifier le nombre à mener, et d'une voix claire, il dit « 9 par 6 et 3 ». Chiffre heureux s'il en fut, puisque la cinquième partenaire allait d'un bond à la 26e case, état du vice-consin. Chapitre 12.
La cinquième partenaire.
Oh, chère Lysie, quel heureux, quel merveilleux coup de dé!
S'écria l'impétueuse Jovita Follet. Et elle venait d'entrer dans la chambre, sans s'inquiéter, l'imprudente, de troubler la malade qui reposait peut-être en ce moment. Lysie Wag était éveillée, toute pâle, et elle échangeait quelques paroles avec la bonne vieille dame assise près de son lit. Après la proclamation faite par maître Thornbrock, Jovita Follet avait quitté l'auditorium, laissant la foule s'abandonner à ses réflexions, et Hodge Hurrican furibond de n'avoir pu profiter d'un coup pareil.
« Et quel est le nombre de points ?» demanda Lysie Wag, se soulevant à demi.
« 9, ma chérie, 9 par 6 est 3, ce qui nous porte d'un bond à la 26e case. »
Et quelle case?
État du Wisconsin, Milwaukee, à 2 heures, 2 heures seulement par le rapide.
Le fait est que pour le début de la partie, on ne pouvait espérer mieux.
Non, non, répétait l'enthousiaste personne. Oh, je sais bien, avec 9 par 5 et 4, on va tout droit à la 53e case. Mais cette case-là, regarde la carte, c'est la Floride. Et nous vois-tu obligés de partir pour la Floride? Autant dire le bout du monde.
Et toute rouge, toute haletante, elle se servait de la carte comme d'un éventail.
En effet, tu as raison, répondit Lysie Wag. La Floride, c'est un peu loin.
Toutes les chances, ma chérie, affirmait Jovita Follet. À toi, toutes les bonnes chances. Et aux autres, eh bien, toutes les mauvaises.
Sois plus généreuse.
Si cela te plaît, j'accepte Monsieur Max Réal, puisque tu fais des vœux pour lui.
Sans doute. Mais revenons à nos affaires, Lysie. La case 26e. Vois-tu l'avance que cela nous donne? Actuellement, le premier en tête, c'était ce journaliste, Awiste Kimball. Et il n'est encore qu'à la 12e case. Tandis que nous, encore 37 points, rien que 37 points, et nous sommes arrivés au but.
Ce qui lui causait quelque dépit, c'est que Lysie Wag ne se mettait pas à son diapason. Et elle s'écria,
« Mais tu n'as pas l'air de te réjouir. »
« Si, Jovita, si. » Et nous irons au Wisconsin, à Milwaukee.
Oh, nous avons le temps, ma chère Lysie. Pas demain, ni même après-demain. Dans 5 ou 6 jours, lorsque tu seras guérie. Et même dans 15, s'il le faut, pourvu que nous soyons là le 23 avant midi.
Eh bien, tout est pour le mieux, puisque tu es contente.
Si je le suis, ma chérie, aussi contente que le Commodore est mécontent.
Ce vilain homme ne voulait-il pas te faire mettre hors de concours, obliger maître Thornbrock à lui attribuer ce 5e coup sous prétexte que tu ne pourrais en profiter, que tu étais au lit pour des semaines et des semaines, et même à l'entendre, tu n'étais déjà plus de ce monde. Ah, l'abominable loup de mer! Tu le sais, je ne veux de mal à personne, mais ce Commodore, je lui souhaite de s'égarer dans le labyrinthe, de tomber dans le puits, de moisir dans la prison, d'avoir à payer des simples, des doubles et des triples primes. Enfin, tout ce que ce jeu réserve de désagréable à ceux qui n'ont pas de chance et qui ne méritent point d'en avoir.
Si tu avais entendu maître Thornbrock lui répondre, « Oh, cet excellent notaire, je l'aurais embrassé !»
En faisant la part de ses exagérations habituelles, il était certain que Jovita Follet avait raison. Ce coup de 9 par 6 et 3 était l'un des meilleurs que l'on put amener au début. Non seulement il donnait l'avance sur les 4 premiers partenaires, mais il laissait à Lysie Wag le temps de rétablir sa santé. En effet, l'état de Wisconsin est limitrophe de l'Illinois, dont il n'est séparé au sud que par la ligne du 42e parallèle, à peu près. Il est encadré à l'ouest par le cours du Mississippi, à l'est par le lac Michigan, dont il forme le bord occidental, et en partie au nord par le lac Supérieur. Madison est sa capitale, Milwaukee est sa métropole. Située sur la rive du lac, à moins de 200 milles de Chicago, cette métropole est en communication prompte, régulière et fréquente avec tous les centres commerciaux de l'Illinois. Donc, cette journée du 9, qui aurait pu être si mal engagée, commençait de la plus heureuse façon. Il est vrai, l'émotion qu'elle éprouva causa quelques troubles à la malade. Aussi, lorsque le docteur M.P. Pug vint la voir dans la matinée, la trouva-t-il un peu plus agitée que la veille. La toux, déchirante parfois, était suivie d'une longue prostration et de quelques mouvements de fièvre. Rien à faire, cependant, si ce n'est de continuer la médication prescrite. Du repos surtout, recommanda-t-il à Jovita Follet pendant qu'elle le reconduisait. « Je vous conseille, mademoiselle, d'éviter toute fatigue à Miss Wag. Qu'elle reste seule, qu'elle dorme. »« Monsieur, vous n'êtes pas plus inquiet ?» demanda Jovita Follet, qui se sentait prise de nouvelles appréhensions. « Non, je le répète, ce n'est qu'une bronchite qui suit son cours. Rien du côté des poumons, rien du côté du cœur. Et surtout prenez garde au courant d'air. » Ah, qu'elle se soutienne aussi avec un peu de nourriture, en se forçant s'il le faut, du lait, du bouillon. Mais, docteur, s'il ne survient pas de complications graves, qu'il est bon de toujours prévoir, mademoiselle. Oui, je sais. Peut-on espérer que notre malade sera guéri dans une huitaine de jours? Le médecin ne voulut répondre que par un hochement de tête, qui n'était pas trop rassurant. Jovita Follet, assez troublée, consentit à ne pas rester dans la chambre de Lissy Wag et se tint dans la sienne en laissant la porte entrouverte. Là, devant sa table, où s'étalait la carte du noble jeu des États-Unis d'Amérique, son guide-book incessamment feuilleté, elle ne cessa d'étudier le Wisconsin jusque dans ses dernières bourgades, sous le rapport du climat, de la salubrité, des habitudes, des mœurs, comme si elle eût songé à s'y installer pour la vie. Les journaux de l'Union avaient, comme de juste, publié les résultats du cinquième coup de dé. Plusieurs parlèrent même de l'incident Hurricane, les uns pour soutenir les prétentions du farouche Commodore, les autres pour blâmer ses récriminations. Au total, la majorité lui fut plutôt hostile. Non, il n'avait pas le droit de réclamer ce coup à son profit. Et on approuva Maître Thornbrock d'avoir appliqué les règles dans toute leur rigueur. D'ailleurs, quoi qu'en eût dit Hodge Hurricane, Lissy Wag n'était point morte, ni près de rendre le dernier soupir. Il se fit même en sa faveur, dans le public, une sorte de revirement assez naturel. Elle y gagna de devenir plus intéressante. Bien qu'il fût difficile de croire qu'elle pût supporter jusqu'au bout la fatigue de tel voyage. Quant à la maladie, ce n'était pas même une bronchite, pas même une laryngite, et avant 24 heures, il n'en serait plus question. Et pourtant, comme le lecteur est exigeant en matière d'information, un bulletin de la santé de la cinquième partenaire fut publié matin et soir, ni plus ni moins que s'il se fût agi d'une princesse de sang royal. Cette journée du 9 n'avait apporté aucun changement dans l'état de la malade. Il n'empira pas pendant la nuit suivante, ni pendant la journée du 10 mai. Jovita Follet en tira immédiatement cette conclusion qu'une huitaine de jours suffirait à remettre son ami sur pied. Et d'ailleurs, quand son rétablissement en exigerait 10, 11, 12, même 13, même 15, il ne s'agissait que d'un voyage de 2 heures. Pourvu que toutes deux fussent le 23 à Milwaukee avant midi. C'était conforme aux clauses du match Hyperbone. Et ensuite, s'il était nécessaire de prendre quelques repos, on se reposerait dans la métropole. La nuit du 10 au 11 fut assez calme. À peine Lissy Wag ressentit-elle 2 ou 3 frissons, et il semblait que la période de fièvre eût pris fin. La toux, cependant, continuait d'être très épuisante. Mais la poitrine se dégageait peu à peu. Les râles étaient moins rauques, la respiration plus facile. Donc, aucune nouvelle complication. Il suit de là que Lissiwag se trouvait sensiblement mieux. Lorsque, dans la matinée, Jovita Follet rentra, après une absence d'une heure. Où était-elle allée? Elle ne l'avait pas dit, même à la voisine, qui ne put répondre à Miss Wag quand celle-ci l'interrogea à ce sujet. Dès que Jovita Follet fut entrée dans la chambre, elle vint, sans prendre le temps d'ôter son chapeau, mettre un gros baiser sur le front de Lissiwag, laquelle, à lui voir la figure si animée, les yeux si pétillants de malice, ne put s'empêcher de dire « Qu'as-tu donc ce matin ?»«
Rien, ma chérie, rien. C'est parce que je te trouve un petit air de santé. Et puis, il fait si beau. Un joli soleil de mai. Tu sais, ces beaux rayons que l'on boit, que l'on respire. Ah, si tu pouvais seulement rester une heure à la fenêtre. Hein ? Une bonne dose de soleil. Je suis sûre que cela te guérirait tout de suite. » Mais pas d'imprudence à cause des complications graves.
Et où es-tu allée, ma bonne Jovita?
Où je suis allée? D'abord au magasin Marshall Field, donner de tes nouvelles. Nos patrons en envoient prendre tous les jours, et j'ai voulu les remercier.
Tu as bien fait, Jovita. Ils ont été assez bons pour nous accorder ce congé, et quand il prendra fin...
c'est entendu, ma chérie. Ils ne donneront notre place à personne.
Et puis, après?
Après?
Tu n'es pas allée autre part?
Autre part?
Et il semblait que Jovita Follet hésitait à parler. Mais cela lui partit, comme on dit, et elle n'aurait pu se retenir plus longtemps. D'ailleurs, Lissiwag venait de demander... Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, le 11 mai ?
Le 11, ma chérie, répondit-elle d'une voix éclatante. Et depuis 2 jours, nous devrions être installés à l'hôtel dans cette belle ville de Milwaukee. Si nous n'étions pas cloués ici par la bronchite.
Eh bien, reprit Lissiwag, puisque nous sommes au 11, le 6e coup de dé a dû être joué ?
Sans doute.
Et alors ?
Et alors ? Non, vois-tu, jamais je n'ai eu tant de plaisir. Jamais ! Tiens, que je t'embrasse. Je ne voulais pas te raconter la chose, parce qu'il ne faut pas t'émotionner. Bon, c'est plus fort que moi.
Parle donc, Jovita.
Figure-toi, ma chérie, il a tiré 9, lui aussi, mais par 4 et 5.
Qui, lui ?
Le Commodore Hurricane.
Et il me semble que ce coup est meilleur.
Oui, puisqu'il va du premier coup à la 53e case, en grande avance sur tous les autres. Mais il est aussi très mauvais.
Et Jovita Follet s'abandonnait à une jubilation non moins extraordinaire qu'inexplicable.
Et pourquoi est-ce mauvais ? Demanda Lissiwag.
Parce que le Commodore est envoyé au diable.
Au diable?
Oui, au fond de la Floride.
Tel était, en effet, le résultat du tirage de ce matin, proclamé avec une visible satisfaction par Maître Thornbrock, encore irrité contre Hodge Hurricane. Ce résultat, de quelle façon le Commodore l'avait-il accepté? En enrageant, sans doute. Et peut-être avait-il dû intervenir pour empêcher Turk de se porter à quelque extrémité. À ce sujet, Jovita Follet ne pouvait rien dire, car elle avait quitté immédiatement la salle de l'auditorium.
« Au fond de la Floride » répétait-elle. « Au fin fond de la Floride, à plus de 2000 miles d'ici !»
Quoi qu'il en soit, cette nouvelle ne causa pas à la malade une émotion aussi vive que le craignait son ami. Sa bonne nature la portait plutôt à plaindre le Commodore.
« Et voilà comment tu prends la chose ! » s'écria son impétueuse compagne.
« Oui, le pauvre homme,
murmura Lissiwag. La journée ne fut pas mauvaise, bien que la convalescence n'eût pas commencé. Cependant, il n'y avait plus à redouter ces complications graves, dont un médecin prudent prévoit toujours l'éventualité. À partir du lendemain 12, Lissiwag put se soutenir en prenant quelque nourriture. S'il ne lui fut pas permis de quitter son lit, comme la fièvre avait disparu, comme enfin le temps leur paraissait long à toutes deux, plus particulièrement à Jovita Follet. Celle-ci vint s'asseoir dans la chambre et, sinon sous forme de dialogue, du moins sous forme de monologue, la conversation ne devait pas languir. Et de quoi eut causé Jovita Follet, si ce n'est de ce vice-cousin, à l'entendre, le plus beau, le plus curieux des états de l'Union. Son guide-book sous les yeux, elle ne tarissait pas. Et si Lissiwag, retardé jusqu'au dernier jour, n'y devait séjourner que quelques heures, du moins le connaîtrait-elle autant que si elle y eût passé plusieurs semaines. « Imagine-toi, ma chérie, » disait Jovita Follet d'un ton admiratif, « qu'il s'appelait autrefois Mesconzin à cause d'une rivière de ce nom, et que nulle part il n'y a de pays qui lui soit comparable. Dans le nord, on voit encore les restes de ces anciennes forêts de pins qui couvraient tout le territoire. Et puis, il possède des sources thermales supérieures à celles de la Virginie. Et je suis certaine que si ta bronchite... Mais, fit observer Lissiwag, est-ce que ce n'est pas à Milwaukee que nous devons aller ? « Oui, Milwaukee, la principale ville de l'État, et dont le nom signifie en vieille langue indienne « beau pays ». Une cité de 200 000 âmes, ma chère. Beaucoup d'Allemands, par exemple. Aussi l'appelle-t-on l'Athènes germano-américaine. Ah, si nous y étions, quelle délicieuse promenade à faire sur les falaises, où s'élèvent de superbes maisons en bordure du fleuve. Rien que des quartiers élégants et propres, rien que des constructions en briques d'un blanc laiteux. Ce qui lui a valu le nom, voyons, tu ne devines pas ? Non, Jovita. Queen City, ma chère, la cité crème. On y tremperait son pain. Ah, pourquoi faut-il que cette maudite bronchite nous empêche de nous y rendre ? Puis le vice-cousin comptait nombre d'autres villes que toutes deux auraient eu le temps de visiter, si elles avaient pu partir dès le 9. C'était Madison, bâtie sur son isthme comme sur un pont entre le lac Mendota et le lac Monona, qui se diversent l'un dans l'autre. Puis d'autres bourgades avec des noms bizarres, Fond du Lac, au bord de la rivière du Renard, sur un sol percé de puits artésiens. Une vraie écumoire. Et encore un joli endroit qu'on nomme Eau Claire, avec un admirable torrent qui justifie ce nom. Et le lac Queenbago, et la baie verte, et le mouillage des 12 apôtres devant la baie d'Ashland, et le lac du Diable, une des beautés naturelles de ce merveilleux Wisconsin. Et Jovita Follet lisait d'une voix enthousiasmée les pages de son guide. Et elle racontait les diverses transformations de ce pays, jadis parcouru par les tribus indiennes, reconnu et colonisé par les franco-canadiens, à une époque où on le désignait encore sous le nom de Badger State, l'état du blaireau. Dans la matinée du 13, il y eut à Chicago redoublement de la curiosité publique. Les journaux avaient d'ailleurs surexcité les esprits au dernier point. Aussi, la salle de l'auditorium regorgea-t-elle de curieux, comme au jour où fut donnée lecture du testament de William J. Hyperbone. En effet, à 8 heures, allait être proclamé le 7e coup de dé au profit du mystérieux et énigmatique personnage désigné par les initiales XKZ. En vain avait-on essayé de percer l'incognito de ce partenaire. Les plus habiles reporters, les plus perspicaces furets de la chronique locale, y avaient échoué. À plusieurs reprises, ils se crurent sur une trace sérieuse et firent fausse route. Tout d'abord, on pensa que par le codicille ajouté à l'acte testamentaire, le défunt avait voulu désigner un de ses collègues de l'excentrique club et lui donner un septième de chance dans le match. Le nom de George B. Higginbotham fut même prononcé, mais l'honorable membre démentit formellement le fait. Quant à Maître Thornbrock, lorsqu'il fut interrogé à ce sujet, il déclara ne rien savoir et n'avoir d'autre mission que d'envoyer au bureau de poste des localités où il devrait l'attendre le résultat des tirages concernant l'homme masqué, expression adoptée par le populaire. Cependant, on espérait, non sans quelque raison peut-être, que ce matin-là, le sieur XKZ répondrait à l'appel de ses initiales dans la salle de l'auditorium. De là, cette foule, dont une faible partie seulement avait trouvé place devant la scène, sur laquelle apparurent le notaire et les membres de l'excentrique club. C'était par milliers que les spectateurs se pressaient dans les rues avoisinantes et sous les ombrages de Lake Park. La curiosité fut déçue, absolument déçue. Masqué ou non, aucun individu ne se présenta lorsque Maître Thornbrock eut fait rouler les dés sur la carte et proclamé à voix haute « 9 par 6 et 3, 26e case, état du Wisconsin ». Circonstance singulière, c'était le même nombre qu'avait obtenu Lissy Wag, produit également par 6 et 3. Mais, circonstance de la dernière gravité pour elle, d'après la règle établie par le défunt, si elle se trouvait encore à Milwaukee le jour où XKZ y arriverait, elle devrait lui céder la place et revenir à la sienne, ce qui équivalait dans l'espèce à recommencer la partie et ne pouvoir s'en aller et être clouée à Chicago. La foule ne voulut pas sortir, elle attendit. Personne. Il fallut bien se résigner. Ce n'en fut pas moins un désappointement général que les journaux du soir traduisirent en articles peu sympathiques pour le malencontreux XKZ. On ne se jouait pas ainsi de toute une population. Enfin, les jours s'écoulèrent de 48 heures en 48 heures. Les tirages s'effectuaient régulièrement suivant les conditions normales. Et les résultats étaient envoyés par le télégraphe aux intéressés là où ils devaient être dans les délais prescrits. On arriva ainsi au 22 mai. Aucune nouvelle de XKZ qui n'avait pas encore paru au Wisconsin. Il est vrai, pourvu qu'il fût le 27 au post-office de Milwaukee, cela suffirait. Eh bien, Lissy Wag ne pouvait-elle donc se rendre immédiatement à Milwaukee et, se conformant à la règle du jeu, en repartir avant que XKZ y arrivât? Oui, puisqu'elle était à peu près rétablie. Mais alors, il y eut lieu de craindre que Jovita Follet, qui éprouva une véritable crise de nerfs, ne tomba malade à son tour. Un accès de fièvre se déclara et elle dut prendre le lit. « Je t'avais prévenu, ma pauvre Jovita, » lui dit Lissy Wag. « Tu n'es pas raisonnable. » « Ce ne sera rien, ma chérie. D'ailleurs, la situation n'est pas la même. Je ne suis pas du jeu, moi. » Et si je ne pouvais partir, tu partirais seule. Jamais, Jovita. Il le faudrait pourtant. Jamais, te dis-je. Avec toi, oui, bien que cela n'ait pas le sens commun. Sans toi, non. Et certainement, si Jovita Follet ne pouvait l'accompagner, Lissy Wag était décidée à abandonner toute chance de devenir l'unique héritière de William J. Hyperbone. Que l'on se rassure, Jovita Follet en fut quitte pour une journée de diète et de repos. Dans l'après-midi du 22, elle put se lever et boucla définitivement cette valise des deux voyageuses qui allaient courir les États-Unis. « Ah !» s'écria-t-elle, « je donnerai 10 ans de ma vie pour être déjà en route. » Avec les 10 ans qu'elle avait déjà donnés à plusieurs reprises, et les 10 ans qu'elle donnerait plus d'une fois encore au cours du voyage,
il ne lui resterait que bien peu de temps à demeurer en ce bas monde. Le départ était fixé pour le lendemain 23, 8 heures du matin, par le train qui arrive en 2 heures à Milwaukee, où Lissiwag trouverait, à midi, la dépêche de maître Tom Brock. Or, cette dernière journée se fut terminée sans incident, si, un peu avant 5 heures, les deux amis n'eussent reçu une visite à laquelle elles ne s'attendaient guère. Lissiwag et Jovita Foley, penchés à la fenêtre, observaient la rue où stationnait un certain nombre de curieux dont les regards ne cessaient de se lever vers elles. On sonna à la porte. Jovita Foley alla ouvrir. L'ascenseur venait de déposer un individu sur le palier du 9e étage. « Mademoiselle Lissiwag ?» demanda cet individu en saluant la jeune fille. « C'est ici, monsieur. Pourrais-je être reçu par elle ?»« Mais, » répondit Jovita Foley en hésitant, « Miss Wag a été fort malade et... »« je sais, » dit le visiteur, « et j'ai lieu de croire qu'elle est absolument guérie. »« Absolument, monsieur, puisque nous devons partir demain matin. » « Ah, c'est à Mademoiselle Jovita Foley que j'ai l'honneur de parler. »« Elle-même, monsieur. Et en ce qui vous concerne, puis-je remplacer Lissy ?»« Je préférerais la voir de mes propres yeux, si c'est possible. »« Vous demanderai-je pour quelle raison ?»« Je n'ai point à vous cacher ce qui m'amène, mademoiselle. J'ai l'intention de parier dans le match Hyperbone. » d'engager une forte somme sur la 5e partenaire. Et vous comprenez, je désirerais... Si Jovita Foley comprenait, et si elle fut ravie. Enfin, il y avait quelqu'un à qui les chances de Lissiwag paraissaient assez sérieuses pour qu'il voulût risquer sur elle des milliers de dollars. « Ma visite sera courte, très courte, » ajouta le monsieur en s'inclinant. C'était un homme d'une 50aine d'années, la barbe grisonnante, les yeux vifs encore derrière son binocle, plus vifs même que ne le comportait son âge. L'air d'un gentleman, figure distinguée, taille droite, voix d'une extrême douceur. Tout en insistant pour voir Lissiwag, il ne le faisait qu'avec une parfaite politesse, s'excusant de la déranger, précisément à la veille d'un voyage de cette importance. En somme, Jovita Foley ne crut pas qu'il pût y avoir le moindre inconvénient à le recevoir, puisque sa visite ne devait pas se prolonger. « Puis-je connaître votre nom, monsieur ?»« Humphrey Weldon, de Boston, Massachusetts, » répondit le gentleman. Et il pénétra dans la première chambre, dont Jovita Foley venait d'ouvrir la porte, puis se dirigea vers la seconde chambre, dans laquelle se tenait Lissiwag. En apercevant le visiteur, celle-ci voulut se lever. « Ne vous dérangez pas, mademoiselle, » dit-il. « Vous excuserez mon importunité, mais je désirais vous voir. Oh, rien qu'un instant !» Cependant, il dut accepter le siège que Jovita Foley venait d'avancer près de lui. « Un instant, rien qu'un instant !» répéta-t-il. « Ainsi que je l'ai dit, mon intention est d'engager sur vous une somme importante. » car je crois à votre succès final, et je voulais m'assurer que votre état de santé... « Je suis tout à fait rétabli, monsieur, » répondit Lissiwag, « et je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Mais vraiment, mes chances... »« Affaire de pressentiment, mademoiselle, » répondit monsieur Weldon d'un ton décidé. « Oui, de pressentiment, » ajouta Jovita Foley. « Cela ne se discute pas, » affirma l'honorable gentleman. « Et ce que vous pensez de mon ami Wag ?» s'écria Jovita Foley. « Je le pense aussi. Je suis sûre qu'elle gagnera. »« J'en suis non moins sûre, du moment que rien ne s'oppose à son départ, » déclara M. Weldon. « Demain, » affirma Jovita Foley, « nous serons toutes les deux à la gare. » et le train nous déposera avant midi à Milwaukee. Vous pourrez d'ailleurs vous reposer quelques jours, si cela est nécessaire.
fit observer M. Weldon.
« Oh, non, point !» répliqua Jovita Follé.
« Et pourquoi ?»«
Parce qu'il ne faut pas que nous soyons encore là le jour où M. XKZ y arriverait. Sinon, nous serions obligés de recommencer la partie. »
« C'est juste.
Mais où nous enverra le second coup ?» dit Lissy Wag.
« C'est ce qui m'inquiète. »«
Et qu'importe, ma chérie !» s'écria Jovita Follé, en s'élançant comme s'il lui eût poussé des ailes.
« Espérons, mademoiselle Wag, reprit le gentleman, que le second coup de dé sera aussi heureux pour vous que l'a été le premier. »
Et alors, cet excellent homme parla des précautions à prendre en voyage, de la nécessité de se conformer aux horaires, de combiner avec une extrême précision les trains si nombreux de ce réseau qui couvre le territoire de l'Union.
« D'ailleurs, ajouta-t-il, je vois avec grande satisfaction, mademoiselle Wag, que vous ne partez pas seule. »
« Non, mon ami m'accompagne. Vous, pour dire vrai, m'entraîne à sa suite. »
« Et vous avez raison, mademoiselle Follé, répondit M. Weldon. « Il vaut mieux être deux à voyager. C'est plus agréable. »
« Et c'est plus prudent quand il s'agit de ne pas manquer les trains, déclara Jovita Follé.
« Aussi je compte sur vous, ajouta M. Weldon, pour faire gagner votre ami.
Comptez sur moi, monsieur.
Donc, mes vœux pour vous, mesdemoiselles, car votre succès garantit le mien. »
La visite avait duré une vingtaine de minutes, et après avoir demandé la permission de serrer la main de Lissy Wag, puis celle de son aimable compagne, M. Humphrey Weldon fut reconduit à l'ascenseur, d'où il envoya un dernier salut.
« Pauvre homme !» dit alors Lissy Wag. « Et quand je songe que c'est moi qui vais lui faire perdre son argent. »
« C'est entendu !» répliqua Jovita Follé. « Mais rappelle-toi ce que je te dis, ma chère. Ces vieux messieurs-là sont remplis de bon sens, et ils ont un flair qui ne les trompe jamais. Et ce digne gentleman, dans ton jeu, c'est un porte-bonheur. »
Les préparatifs étant terminés, et depuis combien de temps, on le sait, il n'y avait plus qu'à se coucher, la nuit venue, afin de se lever dès l'aube naissante. Toutefois, on attendit la dernière visite du médecin qui avait promis de revenir dans la soirée. Le docteur M.P. Pug, qui ne tarda pas à arriver, put constater que l'état sanitaire de sa cliente ne laissait plus rien à désirer, et que toute crainte de complications graves devait être enfin écartée. Le lendemain, 23 mai, à 5 heures du matin, la plus impatiente des deux voyageuses était sur pied. Et ne voilà-t-il pas que cette étonnante Jovita Follé, dans une dernière crise de nerfs, se forge toute une série d'empêchements et de disgrâces, de retards et d'accidents? Et si la voiture qui allait les transporter à la gare versait en route? Si un encombrement l'empêchait de passer? Et s'il y avait eu un changement dans l'heure des trains? Et si un déraillement se produisait?
Calme-toi donc, Jovita, calme-toi, je t'en prie, ne cessait de répéter Lissy Wag.
Mais je ne peux pas, ma chérie.
Est-ce que tu vas être dans un pareil état tout le temps du voyage?
Et tout le temps.
Alors je reste.
La voiture est en bas, Lissy. En route, en route.
En effet, la voiture attendait, commandée une heure plus tôt qu'il ne fallait. Les deux amis descendirent, suivis des vœux de toute la maison, aux fenêtres de laquelle, même de si grand matin, se montraient quelques centaines de têtes. Le véhicule prit par North Avenue jusqu'à la North Branch, redescendit la rive droite de la Chicago River, la traversa sur le pont à l'extrémité de Van Buren Street et débarqua les voyageuses devant la gare à 7h10. Peut-être Jovita Follé éprouva-t-elle un certain désappointement en constatant que le départ de la cinquième partenaire n'avait point attiré un grand concours de curieux. Décidément, Lissy Wag n'était pas favorite dans le match hyper bonne. La modeste jeune fille ne s'en plaignit pas,
du reste, et elle préférait de beaucoup quitter Chicago sans provoquer l'attention publique. Jusqu'à ce monsieur Weldon qui n'est pas là, ne put s'empêcher de remarquer Jovita Foley. Et en effet, le visiteur de la veille n'était point venu mettre en wagon la partenaire à laquelle il portait un si vif intérêt. « Tu le vois ?» fit observer Lizzie Wagg. « Lui aussi m'abandonne. » Enfin le train partit, sans même que la présence de Lizzie Wagg eût été saluée. Point de hurra, point de hips, si ce n'est ce que Jovita Foley poussa in petto en son honneur. La voie ferrée suit le contour du lac Michigan. Lake View, Evanston, Greenock et autres stations furent dépassées à toute vitesse. Le temps était superbe, les eaux étincelaient au large, animées par les steamers, les navires à voile. Ces eaux qui, de lac en lac, Supérieur, Huron, Michigan, Erie, Ontario, vont se déverser par la grande artère du Saint-Laurent dans le vaste Atlantique. Après avoir quitté Waukegan, ville importante du littoral, le train sortit de l'Illinois à la station de State Line pour entrer dans le Wisconsin. Un peu plus au nord, il fit halte à Racine, grosse cité manufacturière, et il était moins de 10 heures lorsqu'il s'arrêta en gare de Milwaukee. « Nous y sommes ! Nous y sommes !» s'écria Jovita en poussant un tel soupir de satisfaction que sa voilette se tendit comme une voile sous la brise. « Et même de 2 bonnes heures en avance ?» observa Lizzie Wagg en regardant sa montre. « Non, de 14 jours en retard !» riposta Jovita Foley qui sauta sur le quai. Puis elle s'occupa de retrouver sa valise au milieu de la débandade des bagages. La valise n'était point égarée. On ne sait pourquoi, Jovita Foley avait eu cette crainte. Une voiture s'approcha, les deux voyageuses y montèrent et se firent conduire à un hôtel convenable dont le guide-book donnait l'adresse. Et lorsqu'on lui demanda si elle séjournerait à Milwaukee, Jovita Foley répondit qu'elle le dirait en revenant du post-office, mais que probablement elle repartirait le jour même. Puis, se tournant vers Lizzie Wagg, « Est-ce que tu n'as pas faim ?»« Je déjeunerai volontiers, Jovita. »« Eh bien, déjeunons, et ensuite nous ferons une promenade. »« Mais tu sais qu'à midi... »« Si je le sais, ma chérie !» Elles s'attablèrent dans le dining room et ne restèrent pas plus d'une demi-heure à table. Comme elles n'avaient pas encore donné leur nom, se réservant de le faire en revenant du bureau de poste, Milwaukee ne put se douter que la 5e partenaire du match Hyperbonne se trouvait dans ses murs. Bref, à midi moins le quart, les deux voyageuses entraient au post-office, et Jovita Foley demandait à l'employé s'il était arrivé une dépêche pour Miss Lizzie Wagg. À ce nom, l'employé releva la tête et ses yeux exprimèrent une vive satisfaction. « Miss Lizzie Wagg, » dit-il. « Oui, de Chicago, » répondit Jovita Foley. « La dépêche vous attend, » ajouta l'employé en remettant le télégramme à sa destinataire. « Donne, donne, » dit Jovita Foley. « Tu serais trop longtemps à l'ouvrir et j'aurais une attaque de nerfs. » De ses doigts qui tremblaient d'impatience, elle brisa l'enveloppe et lut ces mots. Lizzie Wagg, Post Office, Milwaukee, Wisconsin. 12 par 6 et 6, 38e case, État Kentucky, Mammoth Cave, Thornbrook.